Ce sont les plus grands tueurs de l'humanité. À eux seuls, les moustiques sont responsables de 700 000 morts chaque année sur la planète. À titre de comparaison, les requins tuent 10 personnes par an, les crocodiles 1000, les serpents 50 000. Les moustiques présents à peu près partout sur la planète et qui mobilisent de nombreux scientifiques qui tentent de comprendre leur façon de transmettre les maladies. Fièvre jaune, paludisme, dengue ou Zika, les moustiques sont responsables d'un nombre considérable de pathologies graves. L'écrivain Eric Orsenna, le docteur Isabelle de Saint-Aubin publient ensemble une géopolitique du moustique. Ils sont dans un instant les invités de la Tête au Carré. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un sujet inattendu, le lien possible entre le terrorisme et le réchauffement climatique.
Oui, avec un rapport allemand publié jeudi qui l'énonce clairement, le réchauffement climatique facilite le développement du terrorisme et du crime organisé. On en discute avec Bastien Alex de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise notre Tête au Carré.
La Tête au Carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Avec dans un instant une géopolitique du moustique et mes invités, le docteur Isabelle de Saint-Aubin et l'écrivain Eric Orsenna. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Eric Orsenna vous a donc fait un tour du monde sur les traces du plus grand serial killer de la planète. En gros, c'est ça dont il s'agit.
C'est exactement ça, parce que je n'avais jamais encore écrit de policier.
Oui.
Et comme je voulais raconter l'histoire de la mondialisation de la santé, en tant que romancier, j'avais besoin d'un personnage. Mmh. Et le personnage, c'est le moustique. Et donc, j'ai essayé de me mettre à la place du moustique, parce que j'ai peu de personnalité, donc je me mets facilement à la place du moustique.
Bon, eh bien, vous
et notamment de la femelle du moustique.
C'est ça, vous nous parlerez justement.
Je ressemble d'ailleurs à une femelle de moustique.
Oui, avec comme cette trompe noté. Très particulière.
Très, double trompe.
Absolument.
Double trompe, ça veut dire que ça trompe énormément.
Isabelle de Saint-Aubin, pourquoi est-ce qu'on n'est toujours pas parvenu à se débarrasser des moustiques aujourd'hui? Il y a pourtant tout un arsenal qui existe.
Oui, alors on a déjà réussi à diminuer de façon spectaculaire, juste par des mesures de prévention, de diagnostic précoce et de traitement à nos dispositions. Rien qu'avec ça, on a réussi à diminuer de moitié l'incidence du paludisme depuis le début des années 2000. Pourquoi c'est difficile d'éradiquer le moustique? Ben, il y a deux autres leviers, c'est la vaccination, ça fait des décennies que les chercheurs essayent de développer un vaccin et c'est extrêmement compliqué parce que le parasite a mis en œuvre des processus incroyables pour déjouer notre système immunitaire. Donc ça rend le vaccin très très difficile. Déjà quand un patient est malade, on ne retrouve pas d'anticorps dans son sang pendant sa maladie et quand il est guéri, son système immunitaire est complètement amnésique. Il n'y a aucun souvenir d'avoir été touché. Or, la vaccination, le but, c'est d'éduquer le système immunitaire, de provoquer des anticorps par un petit parasite un peu. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le deuxième moyen de lutte, c'est la génétique, c'est les manipulations génétiques. Alors,
on va en parler dans un instant avec vous. D'ailleurs, on verra même qu'on lâche des moustiques génétiquement modifiés au Brésil pour essayer de les éradiquer. On se retrouve donc dans quelques minutes pour évoquer ces moustiques à travers le monde et avec les questions et les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et la question du climat et du lien possible dans le développement d'organisations terroristes ces 10 dernières années. Un rapport allemand publié jeudi apporte des réponses à cette question. Et selon le think tank Adelphi, qui publie ce travail, le réchauffement climatique crée un environnement favorable au développement des organisations armées et criminelles non étatiques. Bonjour Bastien Alex.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense. Et puis dans ce studio également avec nous, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avec le magazine reporter.net. Hervé, cette question du lien entre climat et terrorisme, les chercheurs tournent autour depuis maintenant un certain temps.
Depuis une bonne dizaine d'années, ouais. La question a commencé à être posée par des scientifiques, par des experts, et commençait aussi à être pris par des politiques et des décideurs. La nouveauté de ce rapport commandé par le ministère allemand des Affaires étrangères, c'est qu'elle va chercher à faire des études de cas très précises pour montrer comment le changement climatique contribue au développement de groupes non armés, terroristes ou pas seulement. Elle a pris par exemple trois cas, on va parler du lac Tchad où une succession de sécheresses a entraîné un rétrécissement du lac et donc une difficulté croissante pour toutes les populations riveraines qui vivaient de ce lac et qui en vivent de moins en moins, donc du coup une fragilisation des sociétés et un terrain fertile pour des groupes armés qui peuvent recruter des jeunes marginalisés qui ne trouvent plus d'emploi ou d'avenir. Il y a aussi le cas de la Syrie qui est analysée en détail et où les chercheurs rappellent qu'il y a eu 10 années de sécheresse sur les 20 dernières années, ce qui a conduit là aussi à une déstabilisation de la société, un très fort exode rural. Et donc finalement, ce qui apparaît, c'est que le changement climatique est un multiplicateur de ressources, de menaces. Il fragilise les ressources, il fragilise les populations et c'est un des facteurs qui contribue au terrorisme.
Bastien, Alex, on peut dire qu'il y a une dynamique, une logique commune dans toutes ces zones qui lie réchauffement climatique et montée du terrorisme ?
Je pense que Hervé l'a très bien expliqué. En fait, ce qui pose problème, c'est évidemment la destruction à long terme des conditions d'habitabilité des territoires. À partir du moment où on n'a plus les conditions de la subsistance sur place, quand on est un paysan qui vit d'agriculture vivrière ou d'autres professions qui sont directement liées finalement à notre environnement, on est bien sûr très menacé par les conditions changeantes de cet environnement. Et si vous ne pouvez plus vivre sur un territoire d'une activité légale ou on va dire en tout cas non violente, vous êtes intéressé par d'autres chemins de traverse. Et évidemment que ça constitue des terreaux fertiles pour d'habiles recruteurs djihadistes. On sait que ce n'est pas un scoop, le terrorisme se nourrit de la misère. On est exactement sur cette logique-là, c'est pour ça qu'on ne réinvente pas la roue. On est simplement dans l'analyse concrète d'un phénomène de dégradation à long terme des environnements et donc des conditions de vie des populations.
Si on reprend l'exemple de la Syrie, quelles ont été les conditions climatiques particulières depuis 10 ans ?
Disons que la Syrie, ne l'oublions pas, est aussi un pays aride. Donc effectivement, il y a un certain nombre de sécheresses ces dernières années qui vont mettre à mal les ressources des agriculteurs qui dépendent directement, enfin on le répète jamais assez, hein, mais l'agriculture ça dépend de quoi ? Ça dépend des conditions climatiques, de l'eau et de l'ensoleillement. Évidemment, le changement climatique est donc le premier facteur de perturbation. Et oui, donc dans le cas de la Syrie, ce qui compte, c'est les sécheresses, mais aussi, n'oublions pas, le mal-développement, avec parfois aussi de mauvais choix d'agriculteurs qui sont proposés par les gouvernements, une mauvaise gestion de la ressource, et tout cela conduit, entre autres facteurs, à provoquer des tensions et peut contribuer, à, en tout cas en partie, au phénomène de la révolution syrienne. Encore une fois, il faut rester prudent, c'est un contributeur, Hervé l'a dit, c'est un multiplicateur de menaces, en aucun cas on peut en faire le facteur primaire, central, de ce conflit.
Bastien, Alex, pardonnez-moi pour cette question peut-être un peu naïve, mais est-ce que le fait de lutter contre le réchauffement climatique pourrait permettre de lutter contre les groupes terroristes ?
Évidemment, à long terme, oui, je le pense, puisque nous l'évoquions, tout dépend du terreau fertile que contribuent à créer les dégradations environnementales. Après, le grand problème que nous avons, c'est que nous sommes ici sur des logiques de long terme, et que ça ne vous aura pas échappé, la capacité de notre classe politique à se projeter dans ce type d'enjeu est quand même relativement limitée. On en a encore eu un bel exemple, je pense, sur ces dernières semaines, où on a beaucoup plus parlé des costards de M. Fillon, pardon, hein, que des problématiques de long terme. Et je crois que c'est un discours qu'il faut commencer à porter. C'est pour ça que nous travaillons, nous autres, en tout cas spécialistes, à promouvoir un petit peu ces sujets-là, pour que les politiques s'y intéressent et qu'on ne prenne pas le problème comme quelque chose qui concernera nos générations, nos futurs, d'ici une cinquantaine d'années. Le problème, c'est que nous devons agir maintenant pour des effets qui ne seront visibles que d'ici plusieurs décennies. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse principalement et nos concitoyens, malheureusement, et nos politiques.
Ça veut dire qu'une politique de lutte contre le terrorisme ne peut pas se passer d'une lutte contre le réchauffement climatique ?
Encore une fois, je pense que c'est un point de départ. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le changement climatique n'est pas, comme souvent on le présente, un problème environnemental, c'est un problème transversal, c'est un problème global. Je dis toujours que c'est un problème doublement global, puisque c'est à la fois un problème global sur le plan géographique, mais aussi un problème global sur le plan, on va dire, au sens littéral, c'est-à-dire que c'est un problème économique, c'est un problème politique, c'est un problème énergétique, c'est aussi un problème environnemental. C'est pour cela que, non pas en faire un problème environnemental qui ne serait discuté que dans les cénacles onusiens sur ce sujet, mais en faire un élément guidant la définition des politiques publiques. C'est comme ça, d'une manière diffuse, qu'il faut distiller un petit peu cette prise en compte du changement climatique.
Hervé Kempf.
Mais il y a, vous l'avez dit, les responsables politiques sont peu sensibles finalement à ces questions. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez concrètement si tel ou tel candidat, par exemple à la présidentielle, vous disait « qu'est-ce que je dois faire ?»
Moi, je leur conseillerais peut-être, de façon provocante, de lire un peu plus et peut-être de s'intéresser davantage à la prochaine génération qu'à la prochaine élection. C'est toujours un petit peu le même problème. Mais là aussi, encore une fois, il est difficile dans l'électorat français d'imposer ce type de sujet, sachant qu'on est dans une période de récession économique, en tout cas de difficultés économiques, où le sujet changement climatique est fort peu audible. Donc il faut effectivement s'intéresser un peu plus à ce que peuvent faire les centres de recherche, notamment français, sur la question, puisque nous commençons à nous y intéresser, et peut-être aussi avoir un peu le courage de se mettre en difficulté sur une élection en portant des sujets qui sont certainement pas les plus pertinents pour une certaine frange de l'électorat, mais je crois que c'est malheureusement le conseil à leur donner, c'est ça, c'est essayer de se projeter non pas à horizon 5 ans, mais à horizon 25, 50 ans,
ouais, à penser aussi à leurs enfants. Ce think tank, là, justement, à Delphi, il propose des mesures concrètes pour avancer dès maintenant ou pas?
Alors, je vais être honnête avec vous, moi j'ai pas encore lu leur rapport et leurs recommandations, mais j'ose espérer qu'en tout cas ils le font, puisque c'est généralement ce qu'on essaye tous de faire. Dans les travaux qu'a pu faire l'IRIS par le passé, nous on invite aussi toujours notre interlocuteur principal, qui est le ministère de la Défense, en tout cas à prendre ce problème à bras-le-corps, mais dans l'ensemble de son spectre d'activité. Ça veut dire autant de mettre le doigt en tout cas sur les menaces et les risques liés au changement climatique à long terme, mais aussi par exemple travailler à, on va dire, une amélioration de l'empreinte carbone par exemple de nos forces armées, de nos capacités opérationnelles. Donc aujourd'hui c'est un fait, hein, mais finalement ceux qui s'y intéressent en tout cas au changement climatique avec cette vision long terme, c'est plutôt les militaires. Et c'est un peu la situation qu'on observe aux États-Unis de façon assez alarmante, hein, mais c'est comme ça, les militaires américains sont en désaccord avec l'administration américaine sur le sujet du changement climatique, ce qui est quand même, vous en conviendrez, assez ironique.
Allez, dernière question très vite, Axel. Oui,
cette question de l'aide aux sinistrés du climat, elle a été débattue à la conférence pour le climat de Paris, et c'est d'ailleurs un des points qui n'a pas été tranché.
Alors le problème, c'est que Hervé connaît ça aussi très bien, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une phase de définition des règles de l'accord de Paris, de la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui encore une fois sera applicable à partir de 2020. Donc l'idée, c'est que maintenant nous avons des objectifs, il faut bien sûr les revoir à la hausse. Nous avons aussi des enveloppes budgétaires qui sont avec des montants fixés, alors qu'ils ne sont pas abondés encore, hein. Mais nous devons décider de la répartition de ces enveloppes. Ça veut dire qu'il faut à la fois travailler sur les règles. Par exemple, est-ce que vous considérez qu'il est plus pertinent d'octroyer un certain montant pour certains projets qui concernent des pays qui vont peut-être disparaître de la surface du globe? Je prends l'exemple de Tuvalu. Ou est-ce que il faut, par exemple, réagir avec un critère de population. Par exemple, 10% du territoire vietnamien est amené à disparaître du fait de la montée des eaux, où on trouve là plus de population. Faut-il octroyer en priorité des fonds sur ces espaces-là? Donc on discute aussi des règles de répartition d'enveloppe, ce qui, évidemment, vous en conviendrez, tous les pays ont des modalités de répartition qui épousent leurs intérêts propres.
Merci Bastien Alex pour cet éclairage donc sur le lien entre réchauffement climatique et terrorisme, un lien qu'on retrouvera sur reporter.net dès demain.
Qu'on retrouve déjà, je crois.
Absolument, et on va continuer encore plus.
Merci beaucoup Hervé Kempf. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il y a 13 000 ans, les dentistes du Paléolithique qui soignaient déjà les caries avec des feuilles et du bitume naturel. Plusieurs dents fossiles découvertes en Toscane et décrites par les chercheurs italiens nous font découvrir des techniques de dentisterie pas si éloignées des techniques modernes. La dent infectée était creusée et vidée de sa pulpe pour être ensuite rebouchée à l'aide d'un amalgame fait de végétaux, de cheveux et de bitume naturel. L'étude ne nous dit pas si les patients étaient anesthésiés avant ces opérations, qui était certainement très douloureuse. Les auteurs supposent que ces homo sapiens creusaient les dents à l'aide de petits pieux en bois aux pointes de silex, les mêmes outils avec lesquels ils taillaient leurs bijoux de perles, retrouvés également en abondance sur le site italien. L'ADN, qui a une arme secrète pour éviter les nœuds fines de quelques nanomètres seulement et longues de presque 2 mètres, la molécule d'ADN humaine peut s'enrouler et se dérouler facilement sans jamais faire de nœuds. Et bien pour éviter les catastrophes, des chercheurs anglais ont identifié plusieurs molécules qui participent à l'organisation de ce long filament moléculaires. Ces protéines sont comme des petits moteurs capables de faire et de défaire de longues boucles d'ADN. En plus d'éviter les nœuds, ces protéines participent également à l'expression des gènes en mettant en contact différentes régions particulières du génome dont l'expression est ainsi liée. Et puis enfin, les écrevisses qui boivent seules sont ivres moins vite que celles qui sont en groupe. Cette drôle de conclusion nous vient d'une étude très sérieuse menée aux États-Unis sur les effets de sociabilité en lien avec l'alcool. Les chercheurs ont exposé des écrevisses solitaires ainsi que des groupes d'écrevisses à différents bain d'éthanol plus ou moins concentré, et il remarque, sans pourtant l'expliquer, que les écrevisses exposées en groupe manifestent beaucoup plus vite les effets de l'ivresse, qui sont pour ces crustacés une excitation passagère suivie d'une forte aphasie. Si jamais le mécanisme découvert était le même chez l'homme, il permettrait d'expliquer pourquoi les personnes seules boivent souvent plus que les autres. Et la vidéo des écrevisses ivres est à retrouver sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant des écrevisses, nous passons aux moustiques avec nos invités Éric Orsena et Isabelle de Saint-Aubin.
When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom.
There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long now.
Territory et The Blaze sur France Inter.
Sa nourriture, c'est nous. Son moyen de transport, c'est nous. Ses mutations, c'est encore nous.
On a une menace réelle et avérée qui plane sur nos têtes. Il est ici, chez nous, installé.
Mais son pire ennemi, c'est aussi nous.
Quand il s'arrête sur un piège imprégné d'insecticides, il se contamine. C'est lui-même qui finit par disperser l'insecticide.
Voilà, extrait d'Invasion moustique qui avait été diffusé sur France 5 en 2016. Ces insectes qui piquent l'humanité sans relâche et qui sont les responsables du plus grand nombre de morts chaque année. Eh bien voilà, ces moustiques, on va en parler avec Eric Orsena et le docteur Isabelle de Saint-Aubin, puisque vous publiez ensemble une géopolitique du moustique. C'est aux éditions Fayard. Vous êtes nos invités cet après-midi. Vous allez répondre aux questions des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Donc c'est votre cycle sur la mondialisation, Eric Orsena, qui se poursuit.
Je continue.
Voilà. Tour du monde, donc autour de ces insectes, voilà. Quelles sont les régions du globe, d'ailleurs, qui sont les plus accueillantes pour un amateur comme vous de moustiques, là, maintenant?
C'est les régions chaudes, tropicales et équatoriales. Donc, dans ce livre, nous avons été en Guyane, nous avons été au Sénégal, nous avons été à la frontière du Sénégal, du Mali et de la Guinée, dans une forêt particulièrement infestée, qui est la forêt de Kédougou. Nous avons été aussi au Cambodge, et j'ai été en Chine aussi, dans le laboratoire de Madame Yu Yu, qui avait découvert le principe actif de l'artémisinine.
Ouais, Prix Nobel pour cette découverte.
Avec des pharmacopées. D'ailleurs, pour une histoire extraordinaire, c'est que les soldats du Viet Minh mouraient beaucoup plus de paludisme que des bombes américaines. Ouais. Alors, Ho Chi Minh avait appelé Mao, qui avait lancé un vaste programme pour essayer de voir toutes les pharmacopées antiennes qui étaient disponibles en Chine, et on a trouvé cette plante, l'artémisinine.
Ouais, mais il y a eu une recrudescence de moustiques d'ailleurs au moment de la guerre avec le largage des bombes.
Hein. Non, parce que pour se protéger des bombes, ils avaient creusé des tas de galeries sous la terre qui étaient évidemment extrêmement humides, et c'était des gîtes formidables pour toutes les larves, donc pour les moustiques.
Ouais, donc conséquence collatérale effectivement du largage des bombes.
C'est une coopération entre le Vietnam et la Chine qui a abouti à cette redécouverte de cette plante qu'on connaissait depuis 2 siècles après Jésus-Christ.
Absolument. Alors justement, Isabelle de Saint-Aubin, on apprend dans ce livre que vous avez grandi sur le bord d'un fleuve, l'Ogoué, c'est au Gabon, nourri au biberon agrémenté de Nivaquine, c'est ce traitement préventif contre le paludisme. Donc c'est une enfance qui s'est faite vraiment au contact permanent des moustiques. Vous avez passé combien de temps dans cette forêt gabonaise ?
J'ai passé 12 ans. Dans cette forêt, de 0 à 12 ans. Et effectivement, c'était en contact permanent avec les moustiques. Et ma mère était infirmière et extrêmement attentive à ce que nous ne soyons pas piqués. Et donc, mes frères et sœurs et moi, on était 4, on n'a jamais été touchés par le paludisme. Ouais. Mon père, évidemment, oui, parce que lui
vivait... Qu'est-ce qu'il faisait votre père travail dans la forêt gabonaise ?
Mon père est ingénieur agronome et il est parti, après son diplôme, à l'âge de 23 ans, faire l'inventaire de la forêt gabonaise, qui est une forêt tropicale, primaire, extrêmement où le jour n'apparaît jamais, plein de marigots, etc. Et là, il y a passé... presque 20 ans, et il a attrapé toutes les maladies dont on parle dans ce livre. Et
notamment les filaires, c'est-à-dire des petits vers comme qui entraînent des dégâts terribles dans l'organisme.
Comment se fait-il que vous ayez été protégés, vous les enfants, alors?
Parce que ma mère, d'abord, on a pris de la Nivaquine dès le premier jour de notre vie, et tous les jours, je me souviens, c'était extraordinairement amer.
Ouais.
Et puis, tous les jours, elle passait du Flytox, on appelait ça comme ça, dans la case. C'était des cases en terre battue, puisqu'on changeait régulièrement le long du fleuve. Et elle passait tout au permanganate, la salade, enfin tout ce qu'on arrivait à faire cultiver là. Tout, je vois cette cuvette violette dans laquelle ma mère
Vous n'avez pas été intoxiqué avec tous ces produits que vous avez respirés et ingérés? Eric Cantona dit que si.
Si, oui. Je pense que...
Vous l'écrivez même, certaines choses s'expliquent.
Oui, certains comportements d'Isabelle de Saint-Thomas sont extrêmement bizarres.
Ils sont liés à la chimie,
ce qui est normal. 12 ans en relation directe avec la chimie, et explique et excuse certains comportements.
Vous êtes affreux.
Non, mais c'est vrai, c'est pas forcément
Vous laissez pas faire.
Non, mais il adore.
Sérieusement, vous avez été intoxiqué ou pas par tous ces produits?
Non. Et pourtant, la quinine a des effets secondaires.
C'est vrai. Ouais.
Et nous, depuis l'âge de bébé, on a eu ça. En tout cas, pas de conséquences visibles, mais j'ai du mal à croire que ça n'en est pas...
En tout cas, justement, au sujet de toutes les maladies dont sont porteurs les moustiques, ce sont les enfants qui sont le plus touchés dans le monde.
Il y a 3 chiffres épouvantables à retenir. Ouais. Hein, c'est que 90% des gens qui sont touchés par le paludisme vivent en Afrique subsaharienne. 92% des gens qui meurent du paludisme sont en Afrique subsaharienne, dont 70% d'enfants de moins de 5 ans.
Ouais. Pourquoi les enfants sont plus sensibles aux piqûres de moustiques, Eric Orsena, alors?
Alors, ils sont plus sensibles parce qu'ils se défendent moins. Ils restent immobiles le plus longtemps, parce que ils ne sont pas toujours dans des moustiquaires qui sont des moustiquaires bien imprégnés. Donc il y a des sortes de facilités pour les moustiques de les piquer. Mais pourquoi les moustiques piquent? C'est ça qui est intéressant. C'est pas par une méchanceté qu'on
pourrait
imaginer.
Pourquoi les femelles piquent?
Et ce sont les femelles qui piquent, et ce sont les femelles qui font du bruit. Pourquoi les femelles font du bruit? cochonneries parce qu'avec leur bis bis bis, ce sont des chants d'amour, elles appellent à l'amour. Et une fois qu'elles ont été fécondées, elles ont besoin du sang des êtres humains, mais aussi des animaux, des autres animaux. Elles ont besoin du sang pour, parce que dans le sang, il y a des protéines qui seules leur permettent à leurs œufs de se développer. Donc elles ont besoin de ce qu'on appelle des repas de sang.
Donc c'est parce qu'elles nous aiment qu'elles viennent nous piquer.
C'est parce qu'elles sentent, qu'elles savent que nous sommes irremplaçables. C'est pour ça.
Isabelle de Saint-Aubin.
Pourquoi les enfants, puisque c'était une question que vous avez posée, les tout-petits enfants de 0 à 5 ans sont touchés en priorité? Ça, c'est dans les zones où le paludisme sévit toute l'année. Et au fur et à mesure des années, et que les gens se font piquer, il y a une immunité, ceux qui ne meurent pas, il y a une sorte d'immunité naturelle qui se fait, ce qui fait que les adultes arrivent comme ça à ne pas attraper le paludisme, alors que les très jeunes enfants n'ont pas eu le temps de fabriquer cette immunité naturelle. Et dans les endroits où c'est une paludisme saisonnier, là ça touche tous les âges.
Alors déjà des messages sur franceinter.fr, Eric Orsena. Patrick nous dit ceci: je suis sidéré de constater que votre propos glisse déjà de la lutte contre le paludisme à l'éradication du moustique. Au nom de quoi, de qui, avec quel mandat au sujet de l'éradication pure et simple, est-ce qu'on peut parler justement de ces espèces? Le moustique est un élément de la biodiversité, il est bien évidemment un élément important des chaînes alimentaires dans les écosystèmes.
Mais notre cher auditeur, Patrick, nous a pas entendu complètement, parce que évidemment ça entraîne 750 000 morts chaque année, donc c'est normal qu'on essaye de les contrôler. Mais jamais dans notre livre nous disons qu'il faut les éradiquer, au contraire. Parce que figurez-vous, et Patrick le sait sans doute, c'est que les moustiques sont utiles. Pourquoi ils sont utiles? Parce que les moustiques ont différents stades dans leur vie. Le premier stade est un stade aquatique, c'est-à-dire quand ils sont des larves et après quand ils deviennent des nymphes, ils sont dans l'eau. Et dans l'eau, ils servent à dépolluer et ils servent à nourrir toute une suite de batraciens, des grenouilles, des choses comme ça, c'est important, et les poissons. Et ils servent à dépolluer cette eau. Et après, quand ils deviennent moustiques, ils ont deux fonctions principales. Une fonction de pollinisation.
Ah, ça, on a complètement oublié.
Mais absolument.
On parle que des abeilles.
Les abeilles n'ont pas le monopole.
Ouais, c'est vrai.
Et ils nourrissent aussi d'autres animaux, et notamment les oiseaux. Et donc, si on coupe... on éradique complètement les moustiques, il y a une rupture dans la chaîne alimentaire, donc des risques de famine, évidemment. Et puis après, il y a d'autres risques si on emploie les mécanismes de modification génétique.
Alors justement, dans les pays où on lutte massivement contre les moustiques, est-ce qu'on observe des effondrements de biodiversité dans certains endroits, dans les écosystèmes qui sont concernés justement par les produits qu'on peut
alors épandre. C'est ce qu'on a vu, il y a toute l'histoire du DDT. L'histoire du DDT, là, il y a une Américaine qui a écrit un livre formidable qui s'appelait...
Carlson,
s'appelait le printemps silencieux. Pourquoi le printemps silencieux? Parce que les oiseaux ne chantaient plus. Et pourquoi ils ne chantaient plus? Parce qu'ils étaient morts. Et pourquoi ils étaient morts? Parce qu'ils avaient été détruits par les insecticides, soit directement, soit indirectement, parce qu'il n'y avait plus de moustiques. Mais les moustiques se sont évidemment adaptés. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est quelque chose que Isabelle connaissait, mais moi que j'ai appris, parce que je ne suis qu'un vulgaire économiste, il faut savoir que en un siècle, nous, êtres humains, nous avons 4 générations. 4 générations. Les moustiques en ont 700. Et cela depuis 250 millions d'années. Donc ils s'adaptent sans arrêt. De même que les bactéries à l'intérieur de notre corps peuvent muter toutes les 20 minutes. Donc quand on a une vision d'avoir un médicament qui sera valable partout pour toujours, c'est faux. Regardez les antibiotiques.
Isabelle de Saint-Aubin, ça c'est une des clés justement de leur résistance, c'est cette adaptabilité du moustique partout dans les endroits du globe.
Oui, et surtout, ils se sont adaptés à notre système immunitaire. Ils ont même mis en place des systèmes de brouillage de notre système immunitaire par des mutations rapides. Et enfin, ils ont eu le temps de les mettre en place. Nous, on est là, effectivement, depuis très peu de temps.
Et des changements d'habitude, parce qu'on peut imaginer, par exemple, les anopheles qui sont porteurs du parasite du paludisme. Jusqu'à une date relativement récente, ils ne piquaient que la nuit. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des repas de sang possibles qui étaient disponibles beaucoup plus le jour que la nuit. Donc pourquoi pas changer?
Le moustique est fourbe, et on en parle avec vous dans un instant. Géopolitique du moustique, c'est chez Fayard, Eric Orsena, Isabelle de Saint-Aubin, nos invités.
Je pars parfois, oui, je pars comme toi.
Comme toi, Clara Luciani.
La tête carrée. Sur France Inter.
Et cette géopolitique du moustique chez Fayard et nos invités pour en parler, leurs auteurs Eric Orsena et le docteur Isabelle de Saint-Aubin, avec vos messages qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors on a un courriel de Zoé, Isabelle de Saint-Aubin, qui nous dit qu'elle est née à Kinshasa, elle a vécu là-bas pendant 12 ans. Mes parents, écrit-elle, ne m'ont jamais donné de nivaquine et je n'ai jamais eu le palu. Ça vous paraît être un cas intrigant pour la science ?
C'est intrigant parce que si ses parents ont décidé de pas la mettre sous nivaquine, ouais. Quelle en est la raison ? C'est quand même un risque qu'ils ont pris.
Ouais.
Et puis on n'a aucune idée de. Enfin, je ne sais, je connais pas l'environnement dans lequel elle a vécu. Est-ce que c'était dans une ville ? Est-ce que c'était dans un village ?
Elle est à Kinshasa, oui, mais... apparemment. Mais donc, ça vous étonne le fait qu'elle n'ait pas été piquée du tout, alors ?
Franchement, j'ai pas assez d'éléments pour être étonnée. C'est intrigant, c'est vrai. Mais on sait qu'il y a. On commence à savoir qu'il y a des facteurs génétiques aussi.
Oui, c'est ça ce qui est intéressant, c'est que les différentes ethnies, les différentes catégories de population n'ont pas du tout la même résistance. Et on pensait que la génétique était valable pour tous les êtres humains, c'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle ce qu'il y a autour de la génétique, c'est-à-dire l'interaction entre la génétique et l'environnement, c'est-à-dire l'épigénétique. Et on s'aperçoit, par exemple, que certaines populations du Caucase résistent beaucoup mieux que des populations africaines.
Et on sait pourquoi ? On comprend pourquoi ?
On ne sait pas, on est en plein travail, c'est-à-dire l'épigénétique et toutes ces relations-là, l'ethnogénétique, si on peut dire, sont énormément étudiées, notamment à l'Institut Pasteur. Et vous avez un autre exemple qui est à la fois passionnant et potentiellement terrifiant, c'est que vous avez au Cambodge des populations de moustiques et de parasites qui sont extrêmement résistants. Mais vous avez des populations humaines qui sont relativement peu touchées. C'est-à-dire qu'il y a peu de cas de paludisme proportionnellement. Et si jamais il y avait des résistances en Afrique semblables aux résistances qu'on constate au Cambodge, évidemment, ça serait une catastrophe. C'est pour ça que, pour comprendre ces mécanismes, il ne faut pas une seule science. Il faut de l'épidémiologie, il faut de la virologie, il faut de l'entomologie. Il faut que les gens parlent entre eux. La vie, c'est de la communication. Alors, la vie n'a pas de frontières.
C'est un hommage à la science et aux scientifiques,
oui,
justement, aussi, ce livre.
Sûr,
parce que vous les rencontrez, vous nous racontez qui ils sont, quelles sont les études qu'ils mènent, où ils vont sur le terrain.
Comment peut-on lutter contre nos ennemis potentiels si on ne connaît pas nos ennemis ? Et pour connaître nos ennemis, évidemment, il faut avoir toutes sortes de spécialités. Donc, j'ai rencontré ces gens merveilleux, et Isabelle aussi les a rencontrés, qui sont ce qu'on appelle les entomologistes médicaux. comme François Rodin, comme Dîner Fontenay, comme la formidable...
Qui donnent leur nom à des espèces d'insectes,
mais tout à
et
fait,
de moustiques en particulier.
Ça, c'est leur rêve. Ouais. Mais en fait, ce qui est très émouvant, c'est que, en général, c'est pas eux-mêmes qui donnent le nom, c'est leurs
collègues
qui donnent le nom, c'est parce qu'ils sont formidables, ces gens-là. Découvert des gens qui racontaient les histoires, parce que il faut bien savoir que ce qui se passe à l'intérieur du moustique, c'est-à-dire la vie d'un parasite ou d'un virus à l'intérieur du moustique, c'est une vraie histoire. Une vraie histoire de haine, d'amour, de répulsion, parce que et d'immunologie, parce que à l'intérieur du moustique, bah le virus pourrait se faire dévorer, notamment par les sucs de l'estomac, et pas du tout. Et il se réfugie où? Dans les glandes salivaires. Et c'est notre malédiction, parce que c'est en nous piquant qu'il a besoin d'un anticoagulant pour qu'il puisse continuer à aspirer le sang. Et l'anticoagulant, il est où? Dans la salive. Et qu'est-ce qu'il y a dans la salive? C'est l'endroit où se sont réfugiés les parasites. Donc, le moustique n'est pas du tout une sorte de vulgaire seringue, c'est un mécanisme vivant. Et ce livre, ce que nous avons essayé de faire, et grâce à l'apport du docteur de Saint-Aubin, j'ai pour la première fois à 70 ans compris enfin ce que c'était que la vie. Mieux valait tard que jamais.
C'est ça. Ah oui, carrément, la vie grâce au moustique.
La vie, parce que quand vous êtes économiste, vous connaissez pas la vie.
Oui.
Vous connaissez les mécanismes, tout ça, etc. Mais vous savez pas les mécanismes de la vie et toutes les interactions. Et vous avez le mécanisme de la santé. Parce que si vous avez pas nous, on a une vision humaine en disant, la santé, c'est juste les hommes. Mais si les animaux sont pas en bonne santé, et si on avance vers leur territoire, c'est-à-dire si l'environnement n'est pas géré, ça marche pas. C'est un couple à trois aussi, entre les animaux, l'environnement et les êtres humains.
Alors justement, cet environnement et avec le réchauffement climatique, on en parlait tout à l'heure dans la Une de la Science, ça change évidemment aussi les aires de répartition de ces insectes. La France est concernée, extrait d'un reportage diffusé en 2016.
Son nom, dû à ses patrouilles, en fait le moustique le plus redouté du grand public. Détecté pour la première fois en France il y a 12 ans, le moustique tigre sévit désormais dans 30 départements de métropole. Une invasion spectaculaire qui s'est accélérée ces 12 derniers mois.
De 2004 à 2015, il a fait 20 départements. Et en l'espace d'une année, il a acquis 10 départements. Donc forcément, il y a une espèce d'ascension exponentielle. Sa biologie lui permet d'envahir beaucoup d'endroits, et notamment la zone tempérée.
Très robuste, les œufs du moustique tigre résistent à la sécheresse, mais aussi aux basses températures de l'hiver. Cela permet à ce vecteur de maladie de piquer dans des zones comme la France, où les habitants ne sont pas immunisés contre la dengue, le chikungunya ou encore Zika.
Voilà, Eric Orsena, le moustique tigre en particulier, ça y est, en France, on le connaît bien.
Et on
voit vraiment répartition
sûr, partout,
qui augmente.
Alors pour l'instant, il est désagréable parce que les femelles vrombissent à nos oreilles et puis on est piqué. Pour l'instant, il n'est pas trop dangereux puisque il ne porte pas de parasites. Et pourquoi ils ne portent pas de parasites? Parce que les gens qu'ils piquent ne portent pas de parasites eux-mêmes. C'est-à-dire les parasites, ça vient pas directement dans le moustique. C'est que quand ils piquent quelqu'un et que quand quelqu'un est parasité, le parasite vient chez lui. Le virus vient chez lui. Donc comme il y a très peu de dengue, de chikungunya et de Zika en France, voire pas du tout, donc il peut se balader partout sans être particulièrement méchant. Mais il suffit que ça se développe pour que là sa présence devienne très très dangereuse. Mais vous savez, il y a eu des moustiques partout et très très dangereux dans tout le sud de la France.
Justement, Nina nous dit ceci, dans les années 60, l'aménagement de la côte languedocienne dans le cadre du plan Racine a engendré une démoustication massive de la région en faveur du tourisme. Quelles ont été les conséquences, demande-t-elle, sur l'environnement, la biodiversité, les habitants? Est-ce que les moustiques d'abord ont vraiment disparu de cette région?
Alors justement, il y a un travail qui est formidable qui a été fait par ce qu'on appelle l'EID, c'est-à-dire l'entente interdépartementale, et donc qui a essayé non pas de faire disparaître les moustiques, parce qu'ils auraient eu du mal à le faire, parce que comme on sait, ces petites bêtes sont résistantes, mais juste de les contrôler. Donc on les a contrôlés et on a soigné les gens. Donc on a soigné les gens, donc les gens n'étaient pas malades. N'étant pas malades, ils ne pouvaient pas transmettre un parasite qu'ils n'avaient pas. Et donc, actuellement, ça reste désagréable, mais il n'y a pas du tout la situation que l'on a connue et que raconte, par exemple, Alphonse Daudet dans une de ses formidables lettres de Montmoulin, où on voyait que la Camargue était une sorte de, pendant 3 mois d'été, mais c'était une horreur, une horreur de paludisme, comme dans la plaine du Pô, comme dans toute l'Italie. Et alors on raconte que les Romains qui souffraient de paludisme, ils ont été soignés par quoi? Par qui? Par les jésuites. Pourquoi les jésuites? Parce que les jésuites étaient au Pérou Et qu'au Pérou, en travaillant sur les pharmacopées des locaux, ils avaient pris une petite poudre qui venait d'une écorce d'un arbuste. Le quinquina, c'était le début de la quinine.
C'est ça.
Et les jésuites ont fait une grande fortune là-dessus.
Ouais, alors
ils ont eu le monopole pendant longtemps.
Comment on peut se débarrasser alors du paludisme, en particulier Isabelle de Saint-Aubin, hein, évidemment, il y a toujours cette recherche du vaccin. Vous disiez à quel point tout à l'heure c'est difficile de trouver ce vaccin. Les répulsifs, par exemple, ça fonctionne ou pas vraiment alors ?
Ah, alors, ce sont les mesures de prévention. Les répulsifs sur les moustiquaires imprégnés de façon durable, ça a changé les choses. Eric a quelque chose de très rigolo à raconter là-dessus.
Bah, sur les moustiquaires, si vous prenez une moustiquaire sans répulsif, sans imprégner la moustiquaire, les moustiques, ils attendent tout autour de la moustiquaire que vous alliez pisser. Donc, plus vous avez un problème de prostate, plus vous allez pisser souvent, et donc plus vous êtes piqué. Donc, vous avez intérêt soit à soigner votre prostate, soit à imprégner votre moustiquaire.
Voilà, mais tout est valable.
Hein. Donc, les mesures de prévention, hein, vous me demandiez les mesures de prévention
sur les répulsifs, alors,
oui,
par exemple.
Sur les répulsifs, mais ça va avec les. Enfin, c'est une imprégnation durable des moustiquaires, c'est clé. D'ailleurs, il y a eu une distribution, depuis qu'il y a eu des distributions massives de moustiquaires imprégnés de répulsifs, il y a eu une diminution incroyable dans les villages des cas de paludisme depuis plusieurs années. La deuxième chose, c'est qu'il faut en même temps pulvériser l'intérieur des habitations pour tuer les moustiques qui peuvent avoir pénétré. Alors, pourquoi l'intérieur et pas l'extérieur ? Parce que justement, ça a une incidence sur l'écologie.
Et puis, il faut aussi supprimer ce qu'on appelle les gîtes larveurs. Les gîtes larveurs, c'est-à-dire les endroits où les moustiques se développent
l'eau
partout.
Qui troupie, par
mais,
exemple.
Mais quand vous avez un pot de fleurs que vous laissez comme ça un peu humide, c'est formidable pour les larves. Quand vous laissez une piscine mal gérée.
Ah ben là, c'est extraordinaire. Ça, là. Ça, c'est les Jeux Olympiques du moustique.
Les Jeux Olympiques du moustique,
ouais.
Ça c'est vraiment.
Il y a des pots à moustiques, Isabelle de Saint-Aubin, ou pas?
Alors tellement une question de pots à moustiques, c'est un ensemble de facteurs qui font que on va être piqué ou pas. Qu'est-ce qui va attirer un moustique vers sa proie ? En premier lieu, c'est le CO2 qu'on dégage, l'oxyde de carbone qu'on dégage quand le gaz carbonique qu'on dégage quand on respire. Voilà, il y a ça, et cette détection, il peut la faire à 30 mètres. Et puis, quand il s'approche de sa proie, il y a un deuxième facteur très important, c'est l'odorat du moustique, qui va sentir l'odeur de la sueur qu'on a sur la peau.
Ça l'attire, ça, en particulier?
Oui, ça l'attire beaucoup. Et c'est la transpiration qui va interagir avec les bactéries qu'on a sur la peau qui donne l'odeur à la sueur. Donc, le CO2 qu'on dégage en respirant et l'odorat...
Ça c'est parfait,
voilà,
pour les attirer.
Ça les attire. Après, le CO2 augmente quand le métabolisme augmente. Et le métabolisme augmente dans des cas...
Métabolisme, c'est-à-dire le fonctionnement.
Oui, le fonctionnement du corps qui va être accéléré, donc qui va faire que la respiration augmente, que l'oxyde de que le gaz carbonique, le CO2 va être plus important, c'est quand chez les femmes enceintes, chez les malades et puis chez les sportifs aussi, ils vont attirer.
Ouais.
Et puis après il y a Eric le disait, l'attitude du piqué, on sait que les bébés, les vieillards réagissent beaucoup moins bien.
Et puis les peaux aussi, parce qu'il y a certaines peaux.
Alors quand même,
l'allergie. Ouais. Parce que l'allergie, mais une fois que vous êtes piqué.
C'est leur réaction à elle.
C'est la réaction à elle, c'est la réaction à la peau. Parce qu'il y en a qui font rien du tout, et puis hop, il suffit de piquer, et hop, ça fait une cloque.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette discussion avec les questions qui sont là sur franceinter.fr.
Time. depuis quelques semaines. C'est un étrange rituel qui a lieu dans les rues de Piracicaba, en périphérie de São Paulo. Cette camionnette libère dans les airs un voisin en apparence un peu gênant.
Tous les 150 mètres, on libère 1000 moustiques environ.
Pendant 6 mois, 300 000 moustiques vont être libérés chaque semaine. Les moyens sont artisanaux, mais prometteurs, car ces petites bêtes vont permettre de lutter contre la propagation de la dengue.
On libère seulement des mâles qui vont se reproduire avec les femelles qui sont dans la nature. Et grâce aux gènes modifiés qu'on leur a inséminés, leur descendance va mourir avant d'atteindre l'âge adulte. Et donc ça permet de diminuer la population vecteur du virus.
C'est le premier animal transgénique libéré dans la nature. Dans le centre de santé du quartier, sans vaccin encore homologué, ce moustique est porteur de beaucoup d'espoir. Vous avez entendu parler de ce gentil moustique qu'ils sont en train de libérer ?
Oui.
Vous pensez que ces moustiques vont vous aider ?
Oui, c'est certain, il le faut, car chaque jour on reçoit plusieurs cas de dengue ici.
Voilà, reportage de France 2 tourné dans la périphérie de São Paulo en 2015 pour évidemment parler d'une solution possible, hein, ce moustique transgénique. Eric Orsena, Isabelle de Saint-Aubin. Eric Orsena, est-ce que vous avez entendu parler de cette technique dans la bouche de vos scientifiques ?
Partout.
Ça les intéresse beaucoup ?
Ça les passionne évidemment parce que c'est ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires. Les ciseaux moléculaires, c'est un système extrêmement simple, extrêmement peu coûteux.
CRISPR-Cas9, on en parle de temps en temps.
Oui. CRISPR, c'est la zone où sont les gènes qui nous intéresse, et Cas9, c'est l'enzyme qui permet de détruire le gène qui est important ou très néfaste ou très très malveillant. Donc on peut les modifier. Donc évidemment, on peut ainsi faire en sorte qu'on fabrique des moustiques stériles ou des moustiques dont les enfants ne peuvent pas se développer.
Donc là, le mâle est intéressant parce qu'il faut s'occuper de lui.
Alors, le mâle est intéressant. Ça existait depuis déjà un certain temps. On avait fait ça avec des mouches en stérilisant les mâles.
Ouais.
Stérilisant les mâles. Mais il y a un petit problème, c'est que en stérilisant les mâles, on les abîme pas mal et que les femelles sauvages préfèrent les mecs sauvages et les bad boys. Et donc il faut énormément de moustiques trafiqués pour être comme ça. Donc tout ça, ça s'adapte. Et puis, alors ça c'est un premier mécanisme, les ciseaux moléculaires, mais une application de ce système de CRISPR-Cas9 et un autre système qui est le gene drive, c'est-à-dire le forçage génétique, c'est-à-dire on casse on rompt la logique de toutes les chaînes héréditaires. C'est-à-dire, on accélère la transmission. Sur des générations. Et là, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on peut créer des monstres. La nature horreur du vide, qu'est-ce qui va remplacer ? Par quel porteur les virus vont remplacer les moustiques qui seront morts ? Et puis, on ne peut plus revenir en arrière.
Ouais.
Donc, attention.
Surtout quand on lâche ces animaux dans la nature, avoir de recul par rapport aux effets possibles.
Hein. Sans avoir de recul. Donc, attention. Ça, c'est typique l'apprenti sorcier.
Isabelle de Saint-Aubin, la question au docteur Jérôme nous dit, est-ce que la Nivaquine, c'est vraiment une panacée aujourd'hui ?
Alors, ce n'est plus le traitement de la crise aiguë de paludisme. On garde la quinine en perfusion pour les périodes, pour les complications.
Mm-hmm.
Quand les gens arrivent déjà avec des complications. Mais autrement, non, c'est plus ça qu'on utilise. On utilise des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, en prenant l'artémisinine et un autre antipaludéen, les deux ayant des moyens d'action différents, et ce qui permet de diminuer les résistances. En fait, quand on parlait de mesures de prévention, des mesures préventives tout à l'heure, la lutte contre le paludisme, en dehors des manipulations génétiques dont vient de parler Eric, et de la vaccination, elle repose sur un trépied qui sont les mesures de prévention moustiquaires dont on a parlé, le diagnostic le plus précoce possible dans les 24 heures, et la mise sous traitement dans les 24 heures aussi. Après, on a le risque de complications et c'est là que la mortalité arrive.
Jacques demande, est-ce qu'il y a une gravité accrue des piqûres lorsque ces dernières se répètent ? Paludisme, dengue, chikungunya, est-ce qu'on peut tolérer de multiples piqûres de moustiques ?
Oui, on peut faire plusieurs crises de paludisme.
On peut mélanger les pathologies aussi ? On peut avoir du paludisme, du chikungunya, de la dengue ou
alors, ça dépend si on est piqué. Enfin, oui, tous les cas. C'est sûrement pas nomique, mais bon, il faut que le moustique qui vous est piqué soit porteur des deux germes.
Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire les populations qui sont déjà adultes, d'une certaine manière, se sont un peu immunisés, premièrement. Mais ils sont immunisés principalement dans le paludisme. Parce qu'il y a une autre affection qui est particulièrement redoutable, qui s'appelle la dengue. Et le deuxième accès de dengue, 2, 3, 4, 5 ans après, est plus terrible que le premier.
Un tiers de la population mondiale serait potentiellement touchée par la dengue, c'est ça?
Absolument.
Et la moitié par le paludisme.
Oui, et la moitié par le paludisme. Pourquoi? Parce que les gens voyagent sans arrêt et que les œufs des moustiques ont cette capacité de résister pendant très longtemps, avec un minimum vraiment dans des situations de lyophilisation ou d'hibernation. Ouais. Donc elles peuvent circuler complètement et éclore 6 ans ou 1 an après.
D'ailleurs, vous publiez la une de Time en 2016 qui indiquait à ses lecteurs 40 millions d'Américains voyagent chaque année dans un pays frappé par Zika.
Mais oui, ce mécanisme, c'est ce fantasme humain de croire qu'il y a des frontières. C'est pas vrai, dans la vie, il n'y a pas de frontières.
Ouais. Justement, dans l'imaginaire aujourd'hui de la population mondiale, Zika, c'est vraiment probablement la pathologie qui fait le plus peur. Hein.
Ça fait le plus peur pour deux raisons. D'abord parce que y a des troubles neurologiques qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré qui entraîne des paralysies qui est terrible. Mais surtout, la plus grande symbolique, c'est qu'il y a un blocage de développement du cerveau du fœtus. Et on arrive avec des têtes minuscules. Et j'ai visité en Ouganda la forêt Zika.
Alors c'est cette forêt où a émergé le virus.
Alors le virus, il a sans doute été partout. Ouais. Mais simplement, le virus Zika, on l'a trouvé dans cette forêt Zika. C'est pourquoi ça qu'on l'a baptisé Zika. Pendant assez longtemps, il a été assez tranquille, il a dormi. Ouais. Et puis il s'est réveillé en Polynésie. Et puis brutalement, il a explosé au Brésil.
Isabelle de Saint-Aubin.
Oui, il faut dire que dans 80% des cas, le virus Zika ne donne que très très peu de signes. Il y a même des gens qui ne se rendent même pas compte. Ce sont les complications qui sont spectaculaires, comme ces maladies neurologiques et les microcéphalies qui sont épouvantables. Mais autrement, dans la plupart des cas, c'est pas symptomatique. C'est à peine symptomatique.
Ouais. Les destinations, Eric Orsena, donc, que vous avez parcourues, hein, il y a eu la Guyane, on l'a dit, le Cambodge, Sénégal.
Le Sénégal, le Mali, la Guinée, beaucoup la Chine.
À chaque fois, vous trouvez des instituts pasteurs dans ces pays?
Il y a des instituts pasteurs ou des
vous êtes ambassadeur, je rappelle.
Je suis l'ambassadeur de l'Institut Pasteur, mais il y a aussi des liens avec d'autres instituts de recherche, comme l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Par exemple, il y a un centre magnifique à Montpellier,
dont vous parlez, d'ailleurs, vous le rendez hommage.
Frédéric Simard, qui est un type formidable. Franchement, vous savez, c'est merveilleux. Moi, je ne suis pas du tout chercheur. Je suis juste reporter.
Ouais.
Reporter avec un peu plus de temps que les reporters traditionnels, c'est tout.
Donc, vous avez le droit de poser toutes vos questions. C'est le reporter de luxe, quand même. Hein.
C'est reporter de luxe.
C'est façon Kessel.
C'est un peu Kessel, un peu Albert Londres. Et en tout cas une obstination absolue.
C'est ça.
C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout.
C'est ça.
Mais pourquoi?
Et vous les épuisez, donc, finalement.
Je les
épuise. Vous êtes pire que le moustique.
Absolument. Ah, ils préfèrent les moustiques.
C'est ça.
Ils préfèrent les moustiques. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'espère qu'il va prendre un autre sujet, parce que là, j'en en peux plus d'Orsena.
Et ce sera quoi, le prochain, d'ailleurs?
Eh bien, je vais travailler sur les fleuves.
Ouais.
Et je vais travailler sur les villes. Parce que dans la mondialisation, vous savez que bientôt, 2/3 des êtres humains vivront en ville. Il y a des villes formidables et d'autres qui sont des véritables cauchemars. Et puis, je travaille aussi sur les grands fleuves du monde.
Bon, donc vous allez repartir en voyage.
Et j'en ai peur.
Ouais.
J'en ai peur.
On se retrouvera dans quelques temps quand vous aurez voyagé et écrit votre prochain ouvrage.
Reporter.
En attendant, donc c'est Géopolitique du moustique, toujours dans le cadre de votre travail sur la mondialisation. C'est chez Fayard, ouvrage que vous publiez, Eric Orsena, de l'Académie française, parce que je crois que je ne l'ai pas encore dit depuis le début de l'émission. Pardonnez-moi, cher académicien.
Je vous en prie. Je suis au fauteuil de pasteur.
Je sais.
C'est pour ça que j'essaye pas une légitimité.
Et du commandant Cousteau aussi. Hein.
C'est pareil.
C'est celui qui vous a précédé.
Nous a appris ce qu'il y avait sous la surface.
Et ce livre avec Isabelle de Saint-Aubin. Merci beaucoup à tous les deux. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour.
Affaire sensible dans quelques instants, de quoi parle-t-on avec vous?
L'Arche de Zoé ou la dérive humanitaire, vous vous souvenez de cette affaire le 25 octobre 2007. Eric Orsena réagit, je sais pas pourquoi.
Parce que je connais le dossier.
Ah d'accord. Et nous recevrons le réalisateur Joachim Lafosse dont le film Les Chevaliers Blancs, en sortie en 2015, s'inspire de cette histoire.
Merci beaucoup. Affaire sensible dans quelques minutes. Bon après-midi à l'écoute de France Inter. Merci à Florent Beauvallet et Antoine Gomez.